foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Karima Aizoum Coppola. Bonjour, merci
Bonjour.
D'avoir accepté mon invitation. Je suis un petit peu timide, d'abord pour vous présenter, parce que vous êtes biologiste, neuropsychophysiologiste. Bon, moi qui suis un sociologue, c'est pas trop mon domaine, mais en fait, quand je suis allé sur votre blog et puis que des amis nous ont présenté, j'ai dit « Oh, c'est formidable de parler de toute cette richesse ». Et sur votre blog, tout de suite, d'entrée de jeu, la maladie, les mères déchaînées, pardon, je
pourrais
mal dire. Et puis alors aussi cette phrase qui aussitôt m'a passionné, moi qui suis plutôt sociologue agnostique dans mon travail, les récits sacrés ouvrent un passage entre les vivants et la mort.
Oui.
Nous sommes en pleine peur de la maladie.
De la mort, là.
Et de la mort. Oui. Et même une amie, ou un livre que nous avons lu l'un et l'autre, mais « Vivre avec nos morts », nous sommes aussi pleins de fantasmes. Et nous vivons aussi avec ces héros qui nous ont précédés, qui sont dans la Bible ou dans le Coran.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, bon, je voulais tout de suite vous dire, mais alors, les récits sacrés... la Marseillaise, est-ce qu'elle est sacrée? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. On est en plein dans une mythologie républicaine et vous êtes franco, j'allais dire marocaine, puisque née à Rabat.
Tout à fait.
Précisez-nous un peu tout ça, parce que j'en dis déjà trop et pas assez.
Bon, natif de Rabat, par contre ma famille elle est d'origine, elle est de l'Atlas du côté de Fès, là où il y a les oliviers.
Et la musique sacrée.
Et la musique sacrée, et le Seille c'est l'équivalent ici du bassin parisien, c'est le bassin nourricier du Maroc, malheureusement qui est devenu trop construit. On ne laisse plus la place, là on parle de l'environnement, la place de l'environnement pour permettre la vie à l'humain. Donc je suis native de Rabat, élevée à Fès, une ville culturelle ou multiculturelle parce que toutes les religions sont réunies. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une diversité religieuse, enfin plutôt une diversité, c'est quand je suis arrivée en France.
En 89,
c'est là où je me suis rendu compte que les amis que j'avais, certains étaient chrétiens, juifs, musulmans, mais vraiment...
Et agnostiques. Et
agnostiques, évidemment, mais ça se posait pas, c'était pas ça qui comptait.
Ma foi, j'y crois, vous avez des convictions profondes, et une recherche de sens à travers le corps, la biologie.
Tout à fait.
Et puis
tout
ensuite, Lacan.
Je suis tombée dans le Lacan, effectivement.
Et aussi un voyage à travers les villes, à travers les périodes aussi.
Tout à fait. J'aime beaucoup voyager. J'ai une culture aussi italienne, évidemment française, amazigh.
Italienne parce que votre mari Vincent a une double, on va dire, origine.
Tout à fait. Franco-italien. Franco-italien de son père. Et on a gardé, et avec des enfants, avec toutes ces origines, franco-maroco-italo, ça fait... Je ne sais pas ce que ça donnera, cette nouvelle génération.
Mais pour la France, le multiculturalisme.
Oui.
Alors vous dites, attention, je ne suis pas arabe.
Non.
Gros contresens aussi lorsqu'on lit votre Aizoum.
Aizoum, mais... c'est un nom amazigh qui veut dire
amazigh,
la recherche de l'équilibre en continu. Voyez, c'est ça, celui qui cherche l'équilibre. Et je suis dans cette recherche d'équilibre permanente. Et à la recherche de l'équilibre, ça veut dire qu'on est en mouvement. Et quand on marche, vous savez, c'est... Pression, dépression, c'est ce qui permet le mouvement, c'est ce qui permet d'avancer.
Oui, il y a aussi des maladies bipolaires qui sont difficiles à soigner et vous êtes une spécialiste d'Alzheimer qui est encore une
l'Alzheimer
autre maladie.
Voilà, l'Alzheimer et l'autisme, oui.
Au niveau du cerveau, au niveau de la neurobiologie.
Oui, tout à fait. Et c'est un problème, disons, de connexion, de connectivité. Toutes ces maladies neurodégénératives, ça parle toujours de connexions qui se font ou se font pas, ou se font de trop par excès. Et c'est ça ce qui fait que ça donne certaines pathologies.
Comme les cellules qui se démultiplient, qui donnent le cancer.
Voilà.
Qui n'arrivent pas à se couper.
Qui n'arrivent pas à adhérer. Il manque, il y a une manque d'adhésion, Le cancer, c'est quoi? Ce sont des cellules qui se multiplient de façon anarchique et ils ont perdu leur spécificité, leur fonction. Ils ne veulent plus faire leur fonction.
On ne se rappelle même plus qu'en 89, vous êtes venu en France et en 98, vous avez rencontré un accident et
oui,
vu la mort de
près. La mort, c'est vrai que je n'avais pas compris ce sens-là. C'était très puissant et pourtant, on parle dans la famille de la mort, on parle des anciens, de la mort.
Et des obsèques.
Et des obsèques, et des veillées. Mais
des rituels.
Tout à fait. Mais quand on est confronté à sa propre mort, c'est un peu violent. Et là, on se demande le sens de cette vie.
Mais c'est ce qui a fait que Gandhi s'est converti complètement. C'était un prince qui ne savait même pas qu'il fallait vider les fleurs fanées qui sentent mauvais.
Oui.
Et le mendiant qu'il a rencontré, c'était vraiment une conversion, un changement du regard.
Un changement du regard, c'est vrai.
Une conversion.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas... La conversion, elle est vraiment, disons, personnelle. On ne peut pas convertir qui que ce soit. C'est impossible de convertir les autres. C'est quand on est frappé dans sa propre existence, dans sa propre expérience de vie, à l'échelle carrément cellulaire, génétique. Vous savez, l'épigénétique, on en parle énormément. C'est quoi l'épigénétique? Ça veut dire qu'on a un patrimoine génétique qui nous oriente vers un devenir. Il nous oriente, mais en fonction de notre environnement, en fonction de notre comportement, on peut avoir une autre chose, d'autres possibilités. Et la génétique, elle ne s'exprime qu'à 25%.
XY, alors, nous
oui.
sommes en plein devant déjà le débat des hommes et des femmes, d'un universel, de ce qui nous manque, de cette frustration.
Excellent.
Et alors,
le manque.
Et alors,
le manque. Là, vous avez vraiment dit le manque.
Et le besoin.
Et le besoin, on pense le trouver dans l'autre, en dominant un peu l'autre. Je parle là d'un couple amoureux, par exemple. Le manque de l'autre, le désir de l'autre. Et au début, quand deux êtres se rencontrent, deux êtres en amour se rencontrent, l'un comme l'autre accepte l'autre. Hein. On l'accepte comme il est.
Tout nouveau, tout beau et
voilà.
Les yeux fermés.
Mais au fur et à mesure, on veut... Le lien se fait dans l'orientation et le changement de l'autre. Et c'est ce qui fait des fois que ça casse. C'est
et on
parce
domine,
que,
peut-être.
Évidemment, il y a ce
souffre.
Jeu. Comme dit Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est un moment à l'autre où on accepte d'être l'objet de l'autre ou pas.
Parce que la génétique ne vous suffisait pas, il a fallu aller creuser dans l'inconscient, dans ce que les mots disent, de ce que
oui,
nous n'arrivons pas parfois.
C'est vrai que pour moi, en faisant de la biologie, j'ai fait de l'immunologie, de la bactériologie, et de la neurologie, pour moi, le système nerveux, c'est le plus sacré, hein, c'est le plus protégé déjà sa position. Et travailler sur l'Alzheimer et les maladies neurodégénératives et toutes les pathologies du système nerveux, dont l'autisme aussi, ça me fascinait. Et en travaillant sur des autopsies du cerveau, on a découvert que ceux qui ont été traités toute leur vie de leur pathologie Alzheimer n'étaient pas si Alzheimer que ça. On n'a eu que quelques pourcentages légers, entre 3 et 7%, qui étaient de véritables Alzheimer. Mais les autres, non, ils n'étaient pas vraiment Alzheimer. C'était la vieillesse, c'était des pathologies.
C'est un mot valise comme la bipolarité où on met plein de choses
voilà,
différentes.
Voilà, c'est plus facile. Et c'est là, je suis partie de ce côté-là, de voir autrement, sortir de la paillasse, sortir du laboratoire, sortir du microscope, pour aller voir ces personnes vraiment qui sonnent, qui ont des choses à dire, et voir ce que le mal dit dans cette
maladie,
dans cette pathologie. Voilà.
Faire des jeux de mots pour guérir ou au moins soulager certains maux,
oui.
certaines frustrations, certaines angoisses. Je vous avais apporté un livre sur la peur et la faute, Eugène Dreverman, la culpabilité, l'angoisse. Mais autre date, 2008 quand même, vous me dites, j'ai condamné à la vie
oui.
deux
oui.
personnes, deux
oui.
embryons qui sont nés et qui sont votre joie maintenant.
Ils
Pourquoi?
Sont ma joie et mon inquiétude.
Ah.
C'est vrai, c'est ma joie. C'était, au fait, quand je... C'est un miracle parce que j'étais diagnostiquée stérile et cette joie-là, ils sont arrivés quand même pour une biologiste diagnostiquée stérile. Puis après, ils sont venus. Ah, Marie Amani.
C'est tout un programme.
Marie Amani, ça veut dire j'ai voulu absolument associer Marie. Marie.
Oui, oui,
la
oui,
mère de Jésus.
Et ça. aussi dans le Coran.
Voilà, la maman de Aïssa. Et j'avais ma grand-mère qui s'appelait aussi, ma grand-mère paternelle qui s'appelait Marie. Et la grand-mère de ma mari qui s'appelait Marie aussi. Marie-Louise, Marie-Merou, ma grand-mère. Et mon mari voulait seulement Amani, c'est un nom oriental qui veut dire espérer, souhaité et attendu. Et moi, je voulais absolument faire Marie Yamani avec, ça fait...
Et dans la famille, alors, le conflit, la jalousie, l'inquiétude, Caïn et Abel, d'une certaine manière.
Oui, avec Anselmo. C'est vrai que jusqu'à 40 ans, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des guerres. J'ai jamais compris les guerres. Et en élevant mes enfants, j'ai compris l'origine de la guerre. En tout cas, sa source, malgré l'amour. Mais c'est ce qui permet en fait de grandir, je pense.
Et puis il y a la poésie et la musique. Et vous nous avez apporté ce beau chant d'Oum Khaldoum que nous allons écouter et vous allez nous l'expliquer tout de suite.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Karima Aizoum Coppola, vous êtes biologiste, neuropsychophysiologiste. Vous nous parlez de vos convictions, de votre foi et d'abord de ce beau chant de cette chanteuse, actrice égyptienne très connue, née en 1908, c'est ça ?
Oui. Et qui
enchante le Maghreb et au-delà.
Oui, c'est une chanteuse que j'écoutais quand j'étais toute petite, mais je ne comprenais absolument rien que papa mettait quand on voyageait. Et j'étais amazigh, ma langue initiale, je suis née plutôt
berbère.
Entre le français et le berbère, l'amazigh. Et c'est vrai que cette chanson, quand j'ai compris sa signification, elle me vient souvent quand je suis étonnée devant la création et les miracles de la vie. Et moi, je peux résumer cette chanson pour vous dire comment je la traduis. C'est « Oh, toi, Dieu tout-puissant, créateur des univers, dont les pouvoirs rendent impuissant l'esprit et le cœur, et dont chacun demande la rahma. » La rahma, c'est la miséricorde, c'est retour dans la chaleur matricielle.
Donc votre recherche comme biologiste, on va dire très, très matérialiste, très concrète, très,
très concrète, incarnée. Très concrète.
Puis Lacan et la psychophysiologiste vous renvoient à vos convictions, celles de votre enfance, de vos parents et de votre conjoint.
Oui.
Dans une réflexion, alors on revient sur cette notion de sacré.
Le sacré, le sacré.
La recherche du mystère.
On est entouré de mystères, c'est pas parce que... On est entouré de mystères. À chaque fois qu'on atteint un niveau, il y a toujours un inconnu à redécouvrir. Et ça, c'est fascinant. Ça, les dimensions sont innombrables. Il faut rester ouvert à ça, et j'invite à ça. Un savoir n'est jamais limité. Il y a toujours une continuité.
L'ouverture à la prière.
L'ouverture à la prière.
Vers un autre, le tout autre, ou mais celui dont on est toujours peut-être paresseux et on va chercher des idoles. Il nous déçoit tout le temps.
Tout à fait.
Puisque nous faisons des contresens, des courts-circuits.
Tout à fait.
Et c'est l'autre, les autres qui nous permettent peut-être de chercher une certaine vérité.
Tout à fait. C'est les autres dans le lien. C'est vraiment dans le lien et la différence, je dirais, la différence qu'on va de plus en plus loin et qu'on apprend à se connaître soi-même. Moi, je dirais, quand il y a conflit, c'est que c'est une dimension à découvrir, pas en l'autre d'abord, mais en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne permet pas de grandir, de s'ouvrir, d'élargir le champ de vision.
Mais la petite fille du Maghreb et puis l'étudiante à Montpellier ou à Rouen, et oui. Puis la maman est maintenant... votre blog où vous soignez des personnes et leurs familles,
oui,
c'est la même personne à travers tout ce changement.
C'est vrai, c'est toujours la même personne. J'essaye toujours de garder cette petite fille qui, le premier souvenir que j'ai de toute mon enfance, la petite fille, qui était ébahie devant cette voûte céleste pleine d'étoiles magnifiques. Et c'est ça, cette vision-là qui m'a toujours apaisée.
Alors c'est Abraham.
C'est Abraham,
et
voilà.
Et tous les grains de sable sur la mer et toutes les étoiles.
C'est Abraham, ça ramène à Abraham, ça ramène à Moïse, ça ramène à Jonas.
Alors oui, nous avons échangé un certain nombre de choses puisque vous travaillez sur ces mers déchaînées au double sens du mot la mater, mais aussi la mare nostra,
la mare
cette
nostra.
Eau qui nous déferle et qui nous menace. Joseph, nous en reparlera tout à l'heure avec le pharaon, mais d'abord Jonas, qui ne voulait pas aller convertir Ninive parce que c'est la cité pervertie. Et Allah, dans le Coran, mais Dieu lui dit, Yahvé, va convertir, et il a peur.
Oui.
Il a peur, et alors la tempête, c'est l'outil de Dieu pour dire, désobéis, et ben moi je te fais engloutir par le poisson.
Voilà.
Et pourquoi il arrive à s'en sortir? Il n'est pas mort.
Parce qu'il a demandé
la prière au sein du poisson.
Il a avoué son injustice.
Et
c'est
son impuissance, sa peur. Il l'a avoué.
Il a avoué, il a accepté cette peur, il a accepté son impuissance.
Et le poisson a recraché Jonas.
Et là, c'est magnifique ce jeu de mots où il avait le choix entre la matrice chaleureuse, l'acceptation de ce qui lui est donné.
Rester dans le sein de sa maman, l'eau du poisson. Dans une certaine culpabilité.
Voilà, oui. Mais il était fâché.
Mais il le dit à Dieu.
Voilà.
Comment?
Mais il était très fâché.
Tu me fais convertir en Ninive alors qu'elle est déjà convertie sans moi.
Voyez,
c'est pas possible.
Vous voyez, comme
et
quoi.
Puis, il a réussi à avoir un petit peu d'ombre parce qu'il était déprimé. Il veut mourir dans le désert. Et donc, il y a. Alors, on dit dans le Coran une courge, on dit un ricin. Bon, peu importe.
Voilà, mais en tout cas, il a été réparé, même sa peau, parce que sa peau était très. Je veux dire, on se répare par la nature. Vous voyez, le mariage de l'homme avec la nature, il ne peut se réparer que par la nature.
Oui, mais
le
deux
couvre.
Jours après, le ricin, il meurt et Jonas, de nouveau, est en colère contre Dieu qui lui dit, mais pourquoi tu es en colère contre moi? Je n'aurais pas fait attention à cette grande ville, je n'aurais pas fait attention à cette plante et toi, tu veux que je sois quoi? Dur, trop juste.
Oui.
Et donc... violent d'une certaine manière, et pas miséricordieux, mais je suis miséricordieux.
Voilà.
C'est un conte alors éternel.
C'est un conte. Moi, je trouve les contes qu'on a dans la Bible ou dans le Coran, pour moi, ce sont des récits, ça dépend de quel point de vue, ou bien des contes, mais ce sont des contes constructeurs éternels pour moi. Par exemple, on est vraiment en cette période-là actuelle, je dirais qu'on est dans la période messianique, on est dans la période de Jonas, on est dans la période de Moïse, on est dans la période de Mahomet, dans l'amour, on est dans la période aussi d'Abraham, de cette découverte, cette universalité et cette unicité. Donc vraiment, cette ère dans laquelle on est actuellement nous rappelle un peu tous ces contes bibliques, coraniques, en fait, ces contes humains. Parce que dans le Coran, on dit qu'il y a des prophètes dont on t'a parlé et d'autres dont on n'a pas parlé. Ça veut dire que...
Ils vont venir encore, peut-être.
Le retour de Jésus attendu, de Aïssa attendu, il est attendu.
Ou d'Élie ou du prophète nous diront...
le retour de...
Les chiites, l'imam caché.
L'imam caché qui précède la venue de Aïssa, de Jésus. Donc,
vous êtes passionné par ces lectures, on va dire, mais alors c'est du syncrétisme, vous mélangez tout, et où trouvez-vous du sens qui ne soit pas un contresens ou quelque chose qui soit du blasphème pour ceux avec qui vous allez discuter.
Maintenant, les nouvelles sciences et la science, la physique quantique, je ne sais pas si vous connaissez, donne une explication à tous ces fantasmes, si on peut parler de fantasmes, ou tous ces possibles, impossibles. On est dans une autre dimension, disons.
Comme dirait Pascal, ce silence infini m'inquiète et m'ouvre vers le mystère. Mais on n'avait pas parlé du frère.
Le frère, Anselmo. Anselmo, il y a aussi la racine soumise de l'islam, et il y a celui sous la coupe divine.
Je dirais obéissant plutôt que soumis.
Plutôt obéissant, je dirais qu'il accepte.
L'islam sans soumission.
Cette soumission, ça me gêne. Je dis l'acceptation, parce qu'il y a une volonté d'accepter. Je dirais plutôt accepter.
Dans la liberté de sa propre conscience.
Effectivement, la liberté.
On reverra, je pense, une autre fois, parce que le temps est très vite passé pour cette histoire de Joseph et du Pharaon et de Zulaïka dans le Coran et dans la Bible.
Parce qu'il y a des choses
très, très proches. Eh bien oui, avec le harcèlement, avec le mensonge, et puis aussi avec le fait qu'au nom de ses convictions, Joseph a dit la vérité, n'a pas voulu empreindre un certain sacré de son patron, même si la femme de son patron était pleine de désirs et qui était légitime peut-être.
Tout à fait, vu son âge par rapport à son mari de l'époque. Et c'est vrai aussi... Joseph, il est d'actualité. On est dans la pénurie, plus ou moins avec la maladie du Covid, où il fallait vraiment partager les ressources, où la politique actuelle vraiment a aidé les auto-entrepreneurs.
Beaucoup d'inégalités aussi.
Beaucoup d'inégalités. Et la problématique de maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, mais le MeToo actuellement, comme vous dites, ces agressivités sexuelles, les viols, la violence.
Mais votre travail pour essayer de dénouer ces liens et
dénouer les liens, ou plutôt les nœuds, tout en gardant le lien libérateur. Garder les liens libérateurs.
Et vous nous avez apporté une sourate qui conclura notre entretien avant un autre entretien lors de la saison 3.
Oui.
Où vous nous dites, c'est la sourate
d'espérance, d'ouverture.
De l'adieu, de l'ouverture.
De l'ouverture vers un meilleur. Voilà, je vais la lire en arabe et après en français.
Une minute.
C'est une minute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ça, c'est un rythme dans le Coran qu'on ne peut pas traduire. Je la lit en français, n'avons-nous pas, après le tout miséricordieux, au nom de Dieu le tout miséricordieux, nous n'avons pas ouvert pour toi ta poitrine et nous t'avons, nous, pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée à côté de la difficulté et certes la facilité, à côté de la difficulté et certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire vers la miséricorde, la rahma.
Laissez sur moi Merci. Votre joue, je suis doux et humble de cœur.
Voilà.
Nous nous tournons vers l'Éternel pour ceux qui croient à un autre qui est pour nous la joie et le bonheur.
Oui.
Merci, Karima.
Merci. C'est un plaisir, j'ai pas vu le temps passer.
À bientôt, vous reviendrez. Et merci à Christophe pour l'enregistrement.